BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà notre deuxième volet de De quoi je me mêle et c'est notre rendez-vous Labo Fnac que vous attendez, je le sais, et ça tombe bien parce que moi aussi. Et c'est avec Lionel Costa. Salut Lionel.
Bonjour François.
Responsable du développement du Labo Fnac, vous avez économisé, vous avez une belle liasse de billets comme ça qui est cachée sous votre matelas. Vous avez compté, vous avez à peu près dans les 500 euros et vous vous dites, avec cette somme-là, je vais essayer de m'offrir un super smartphone, mais vous ne savez pas comment choisir. Eh bien, vous savez quoi ? On va tout vous dire maintenant, puisque c'est le thème de notre rendez-vous Labo Fnac. Qu'est-ce qu'on peut avoir en termes de smartphone pour, allez, on va dire maximum 500 euros ? C'est la question qu'on se pose, Lionel, sachant qu'on est dans un segment prix aussi qui est très, très recherché, j'imagine, non ?
Oui, vraiment, la gamme entre 200 et 500 euros, c'est là où on a le plus de références, évidemment, qui sont... Il y a le marché du smartphone est tiré par les flagships qui sont à plus de 1200, 1300, 1500 euros. On a même jusqu'à du 2000 euros. Mais le 500 euros, la limite, la barre fatidique des 500 euros, on n'est pas dans du cheap. On est vraiment sur des bons produits, une bonne quantité de références.
Alors déjà, première chose, on peut se dire, est-ce qu'on a exclusivement que de l'Android pour ce prix-là ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché se partage entre Android et iOS. Ouais. Est-ce qu'on peut s'offrir un iPhone à moins de 500 euros ?
J'ai vérifié avant de venir à l'émission. Je voulais quand même éviter de dire des bêtises parce qu'il peut y avoir des opérations commerciales, il peut y avoir des petites choses. Aujourd'hui, à moins de 500 euros en produit neuf, il n'y a que de l'Android. Exclusivement que de l'Android. Le premier prix que l'on a actuellement en iOS, c'est l'iPhone SE version 64 Go. C'est la plus petite base de stockage. Elle est à 559 euros. Donc, on n'est pas loin des 500 euros. Il y a 59 euros de plus pour quelqu'un qui serait dans l'écosystème iOS. Voilà, il faudrait qu'il pousse un petit peu les 500 euros à 559 euros.
Ouais. Et rappelons qu'on a quand même un téléphone, non pas au rabais, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais disons avec un design d'un autre âge. Il n'y a pas de Face ID. Mmh. L'appareil photo est vraiment limite. Ouais. Si on compare à ce qui se passe chez Android, enfin voilà, c'est un écran qui est assez petit. Donc, il faut vraiment être fan d'Android. Peut-être à ce moment-là, c'est peut-être le conseil qu'on peut donner, c'est se retourner vers reconditionner, ou pour la même somme, on pourrait taper peut-être sur un téléphone un petit peu plus récent, mais d'occasion.
Hein. Oui, très, très rapidement, j'ai pu vérifier, j'ai trouvé le même iPhone SE en marketplace et en reconditionné à moins de 150 euros.
Voilà. Moins
de 150 euros.
Ah ouais.
Et en reconditionné. Après, voilà, c'est toujours le savoir. Est-ce qu'on veut prendre de l'occasion? Beaucoup de gens préfèrent acheter du neuf. Et ça se comprend. Mais le reconditionné, je rappelle quand même que le groupe Fnac Darty, qui est le premier réparateur de France, quand on vend en seconde vie des produits, ils sont garantis 2 ans. Donc ça rassure quand même l'acheteur.
Ouais, c'est ça.
Moi, si j'achète sur Le Bon Coin ou sur une autre plateforme, c'est vrai que la garantie, je l'ai pas. J'ai la garantie sortie du lieu de rendez-vous. Point final, ça s'arrête.
Oui, c'est ça.
Mais là, voilà, le reconditionné, c'est vraiment une bonne option. Les stocks en reconditionné sont limités, évidemment. On n'a pas un stock.
Puisqu'en fait, tout dépend du marché, de l'offre et de la demande.
Et du retour. Exactement.
Du retour, c'est ça.
Mais c'est quelque chose qui est vraiment à regarder quand on sait qu'on est dans l'intention d'acheter. Ne pas hésiter à regarder tout ce qui est seconde vie, et ça peut même nous orienter sur le choix en disant là j'aurais pas pensé à cette marque, tiens bah cette marque là elle est en reconditionné, c'est un truc intéressant, je vais regarder les éléments qu'on va aborder après, qu'est-ce qui était important à regarder, et ben ça correspond, je peux acheter.
Voilà, donc important, hein. Là on vous parle de smartphone de moins de 500 euros, mais neuf. Oui. Le reconditionné, c'est une autre histoire.
Exactement.
On peut taper un petit peu plus haut en termes de qualité.
Oui.
Mais c'est vrai que le constat quand même est dur, hein. C'est-à-dire que pour moins de 500 euros, officiellement, on n'a pas d'iOS. Voilà.
C'est ça.
Mais en revanche, côté Android, on a, et on va vous le dire, parce que évidemment, Lionel va vous proposer sa sélection, bien évidemment. On se retrouve avec des marques qui ont pignon sur rue, hein. Ça peut être du Sony, du Xiaomi, du Google Pixel, etc., etc. On va y revenir. Quels sont les paramètres hyper importants à regarder dans ce segment de prix, Lionel, à ton avis ?
Alors, le premier critère, le Labo Fnac, quand on teste un produit, on ne connaît pas le prix. Déjà, premier critère, en fait, dans notre protocole de test, le prix rentre pas du tout en ligne de compte. Il y a certaines notations qu'on peut trouver dans la presse ou dans certains sites qui vont tenir compte du prix. Nous, pas du tout. Qu'un produit coûte 39 euros ou 3000 euros, on le testera strictement de la même manière. Les critères les plus importants aujourd'hui que l'on observe chez les clients, chez les utilisateurs, c'est vraiment l'appareil photo, la qualité d'écran, l'autonomie. C'est ces trois-là qui sont extrêmement importants. l'écran, c'est assez facile à contrôler soi-même. On allume le téléphone en magasin, évidemment, on le tripote, on arrive à voir très rapidement la qualité d'écran avec ses yeux. La partie autonomie, c'est déjà beaucoup plus compliqué.
Oui, on va se fier à... On va pas rester 24 heures dans une Fnac en attendant que le téléphone s'éteigne.
Bon, téléphone qui fonctionne 24 heures, on n'en a pas encore, mais, ouais. on s'en rapproche. Et pareil pour la partie appareil photo, si on est dans un magasin avec plein de lumière, des spots de tous les côtés, on va prendre des photos, on va se dire c'est joli, arrivé chez soi, on a une petite lumière un peu lounge, un peu tungstène, etc.
Et on se rend compte que c'est pas la même histoire.
Ouais. C'est pour ça qu'au laboratoire de la FNAC, on essaie de relever l'ensemble des éléments qu'on ne peut pas percevoir immédiatement en magasin. Donc c'est quoi les axes? Donc on a la partie écran, la partie autonomie, la partie appareil photo. On mesure aussi la partie audio haut-parleur des smartphones. C'est peut-être pas tout le monde, mais certains utilisent les haut-parleurs pour écouter la radio, pour écouter même les infos ou pour regarder des vidéos sans avoir de casque.
Mais même faire du main libre, tout simplement. Exactement. Passer un coup de fil en main libre. Exactement. Avec le haut-parleur du téléphone, ça nous arrive souvent.
Exactement.
Hein.
Et ça, c'est. Et donc, on a des vraies différences entre les haut-parleurs des produits. Certains d'ailleurs. Alors, petite astuce, juste pour la partie audio, quand le smartphone a deux aérations sur le bas, on se dit bon, c'est un stéréo, il a deux haut-parleurs. Mm-hmm. Non. La plupart du temps, malheureusement, il n'y a qu'un seul, haut-parleur, mais c'est pour des raisons de design, c'est plus quali de mettre des trous des deux côtés, mais en fait, le son ne sort que d'un seul côté.
Ouais.
Petite astuce là-dessus. Et on teste aussi, et là, c'est vraiment notre fierté, deux éléments extrêmement importants, c'est la radiosensibilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la capacité du téléphone à émettre, à recevoir la 2G, la 3G, la 4G.
C'est quand même important, hein, la qualité du réseau.
Évidemment, c'est un téléphone qui n'arrive pas à capter ou qui capte très mal, il consommera plus de batterie, il fonctionnera très, 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 très mal. Et on a la partie performance aussi, où on a développé des outils de mesure, de benchmarking, mais propre au labo de Fnac, hein, c'est pas des boîtes noires, on sait pas ce que ça donne, c'est des vrais résultats qui sont basés sur des critères objectifs, complètement développés au labo de la Fnac, et qui nous permettent de dire la sensation de fluidité, de rapidité sur mon smartphone, comment j'arrive à savoir si celui-là est plus rapide qu'un autre, on le mesure, et ça on le donne avec le petit axe performance. Donc voilà les éléments les plus importants pour arriver à bien choisir le produit. Sur la partie taille d'écran, c'est un élément qui est assez important et qui ne vaut pas une note. C'est pas parce qu'il est petit ou grand qu'il est forcément bien ou pas bien.
Parce qu'après, tout dépend des usages et des goûts de chacun. Hein,
exactement. Et c'est vrai qu'avant, on avait un petit peu toutes les tailles. Là, on a vraiment... ça se balade entre 5,7 et 6,8 pouces, grosso modo.
D'accord.
On est entre... en centimètres, ça fait du 14 cm à 18 cm. Hein, c'est à peu près cette taille-là. Je ne sais pas si on voit... C'est l'écart de doigt qu'on a ici, en diagonale. Et petite chose... Enfin... Gros intérêt technologique qui est arrivé, donc c'est l'OLED qui est là depuis quand même un petit bout de temps maintenant, mais sur les produits à moins de 500 €, c'était pas si présent que ça.
Et ça se démocratise.
Exactement. Et voilà. Donc là où il y avait que du LCD, du truc classique, là on a du OLED, on a des beaux écrans qui avant étaient placés uniquement sur les flagships et qui redescendent en fait dans les gammes. Donc un intérêt génial.
D'une manière générale aussi, on se retrouve avec une constatation. Je pense que tu vas aller dans mon sens, mais aujourd'hui un smartphone à 500 € équivaut à un flagship d'il y a peut-être 3-4 ans.
Ouais.
Finalement, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Ça va peut-être même encore plus vite que ça. Ouais. C'est plutôt intéressant.
C'est hyper intéressant. Et après, c'est vrai que les fabricants veulent toujours communiquer sur des specs de plus en plus élevés avec la dernière puce, etc. Mais il faut pas oublier qu'il y a un équilibre à avoir entre la capacité de la batterie et la puissance de consommation du processeur. Si on a un processeur qui est très puissant et que la batterie, on a toujours la même place pour le mettre au niveau du design, ça serait une batterie qui, malheureusement, une autonomie qui va être réduite. Donc, même avec un processeur pas forcément la dernière génération, pourra être parfait et fonctionner de manière tout à fait équilibrée avec une batterie suffisamment conséquente et avoir vraiment un ensemble très homogène, très, très polyvalent pour la majorité des gens.
Est-ce que dans ce tarif-là, on se retrouve avec un téléphone qui récolte maximum d'étoiles du labo?
Alors, on a justement un produit qui a 5 étoiles. Et je suis assez content parce que c'est un produit, c'est un smartphone et une marque que j'aime bien, mais c'est pas de mon fait qu'il a obtenu ça. C'est le Sony Xperia 10 IV. Donc c'est un Sony Xperia, c'est un Android évidemment, que on vend à 369 €.
Donc il est bien en dessous de 500 €.
Il est même pas tablé à 499, il est vraiment à 369 €. C'est un très très bon produit avec une note d'autonomie de 10 sur 10. En fait, celui-là avec nos tests d'autonomie, il arrive à durer 16h02. On est vraiment, nous, on est des hard. Hein, ça, on est intense sur la partie autonomie. On le laisse tourner, il y a pas de pause.
Oui, vous malmenez la batterie. On y va avec beaucoup d'usage.
En fait, c'est comme si on était à scroller, à naviguer sur Internet pendant 16h02. En fait, grosso modo, avec la luminosité de l'écran calée à 200 candélas, parce qu'on cale tout le monde de la même manière, on veut pas
handicaper
ou défavoriser un modèle plutôt qu'un autre. Donc 10 sur 10 en autonomie, on obtient 8 sur 10 en performance, c'est-à-dire que la puissance de calcul du processeur permet d'être suffisamment fluide et rapide pour 8 sur 10, ça va vraiment faire un maximum de choses. Sur la partie radiosensibilité, pareil, au niveau réception, communication, on est à 8 sur 10 également.
D'accord.
Donc un produit donc il mérite ses 5 étoiles grâce à ça. Et une qualité d'écran qui est à 7 sur 10, qui a des petits soucis sur la colorimétrie. Mais quand je dis soucis sur la colorimétrie, ça veut dire que effectivement les marques ont tendance à un peu saturer les couleurs. Donc on va se retrouver avec, si on prend, j'ai rien contre la Bretagne, hein, si jamais on est en Bretagne et qu'on a un ciel un peu gris.
Ce qui peut arriver de temps en temps.
Bon, on se retrouve à Punta Cana sur l'écran.
Victor Jakimovic qui nous écoute peut-être, va bien rigoler.
Ouais.
C'est le meilleur rapport qualité-prix.
Oui.
Le seul smartphone de cette sélection qui a 5 étoiles.
Oui.
Donc on est d'accord.
À moins de 500 €, oui.
Son petit point faible, donc, c'est l'écran. On est d'accord, il est 5G, j'imagine.
Oui, bien sûr. Oui.
Voilà. Donc, c'est intéressant parce que finalement, Sony, qu'on croyait plus ou moins est en train de mourir dans le monde du smartphone, a un produit qui, selon vous, est l'un des meilleurs du moment, en tous les cas, dans cette gamme de prix à moins de 500 €.
Et j'ai pu voir leur gamme. Ils ont une très grosse ambition. Alors sur la partie photo évidemment, dans le passé on s'était rendu compte que les appareils de marque Sony avaient une sous-couche logicielle, la petite interface logicielle pour faire joli, qui était très consommatrice d'énergie.
Oui.
Là c'est plus du tout le cas. On est bon, c'est une base Android assez commune, mais avec la sous-couche Sony qui est pas du tout aussi consommatrice qu'elle était avant.
Donc, notez bien, le Sony Xperia 10-4, 5 étoiles au labo. Après, il y a d'autres alternatives, forcément.
Alors, j'en ai noté deux autres que je trouve intéressants. Il y a le Xiaomi Redmi Note 11 Pro, qui lui a que 4 étoiles, mais qui est à 349 €. Et on a le Google Pixel 6A, qui est pas le 6 Pro, hein, le 6A, qui lui a 339 €, pareil, 4 étoiles. Donc, deux produits 4 étoiles, c'est pas à rougir. C'est vraiment des bons produits. Et sachant qu'on est extrêmement exigeant, c'est pour obtenir 5 étoiles, je rappelle, sur toutes nos sélections, on est à peu près à 15% de tout ce que nous testons arrive à obtenir 5 étoiles. Ensuite, c'est un peu moins 4%.
Oui, ouais, d'accord. 5, donc, c'est vraiment, il y a peu d'élus, finalement.
Il y a très peu d'élus pour le 5 étoiles. Donc, 4 étoiles, c'est très, très bien.
Ouais. Avec, j'imagine, un focus sur la photo, sur le Pixel 6A.
Ouais, tous.
Il doit être bluffant sur la photo.
En fait, bluffant, il y a des très belles photos. J'ai du mal à dire bluffant parce que peut-être que j'en regarde trop. En fait, maintenant,
c'est ce qu'on dit concernant le Pixel.
Oui, non, ils ont fait un énorme effort par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant et à 4 étoiles, en fait, ça pardonne pas. Si jamais on veut obtenir un très bon produit, le fabricant a tout intérêt à mettre le paquet sur la partie photo, mais également sur la partie processeur. Parce que pour traiter toutes ces images, il nous faut un bon processeur. Si on met une belle optique, un beau capteur avec un mauvais pros, on a un mauvais traitement d'image et des mauvaises qualités d'image.
Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est allé un petit peu plus loin et vous avez regardé quel était le meilleur smartphone le moins cher possible.
Oui.
Ça, c'est intéressant parce que vraiment, on pousse dans les derniers retranchements vos tests et on tombe sur encore une fois un Xiaomi qui fait partie de ces téléphones depuis de très nombreuses années qui ont d'excellents rapports qualité-prix.
Oui, et je parlais donc de ceux qui cherchent à faire la meilleure en photo avec le pro et celui-là c'est pas un pro, c'est un S, c'est le Xiaomi Redmi Note 11 S qui lui est à 4 étoiles, donc très bon produit et qui est à 249 €. Donc, moitié moins de 500 €.
D'accord.
Donc, à 249 €, on n'est pas du tout sur un truc ridicule. Loin de là.
Oui, 4 étoiles, donc.
Exactement. Et avec des notes, enfin, l'autonomie 8 sur 10, il arrive à fonctionner pratiquement 12 heures sans interruption. En performance, il obtient 5 sur 10. C'est là où on a un processeur qui est vraiment médian au niveau vitesse. Mais justement, si on compte pas faire du hard gaming, si on compte pas faire du montage vidéo sur directement sur son smartphone, le processeur impacte très peu là-dessus. Donc c'est pas
oui, important. On garde la fluidité de l'interface.
Exactement. Et les fondamentaux, la qualité de l'écran et la réception réseau, on est à 7 sur 10 et à 8 sur 10. Voilà. On a un très bon produit à 4 étoiles à 269€.
Voilà. 249€. Voilà,
oui.
C'est ça, hein, le Xiaomi Redmi Note 11S. Si on veut un téléphone qui a une excellente autonomie.
Alors, le Sony, déjà.
Oui, c'est vrai.
Le Sony, c'est lui qui a vraiment un score absolument génial.
Mais qui a 369€.
Voilà, exactement. On a le Vivo Y55. Vivo, pareil, c'est une marque chinoise qui depuis 2 ans rentre sur le marché français et qui marche très bien, qui a vraiment des très très bons produits. Alors celui-là n'obtient que 3 étoiles, mais avec un 10 sur 10 en autonomie, et il est vendu à 269€ et 15h42 d'autonomie. 15h42 d'autonomie. Si moi je l'utilise dans ma vie de tous les jours, le 15h42, il va se transformer en 22h, 21h, enfin voilà, dans ces eaux-là. On est vraiment très critique et très sévère sur la partie autonomie. Donc en autonomie, Vivo Y55.
Le meilleur en photo maintenant, parmi toute cette sélection de smartphones à moins de 500€, alors c'est étonnant, enfin étonnant. On s'attendait peut-être à ce constructeur-là. Il s'agit de Motorola.
Et peut-être qu'on fera un focus un jour sur les photophones, donc les smartphones sur la partie photo. C'est le Motorola Edge 30 Fusion. Il est à 499€. Donc lui, il est vraiment
Au taquet.
Exactement.
Hein.
Il obtient 4 étoiles en global. Et il obtient une note photo de 8,3 sur 10. J'ai une petite explication sur les notations. Nous testons les capteurs photo avant et arrière. C'est-à-dire que quand on a un smartphone, est-ce que quelqu'un va l'utiliser avec le capteur qu'on retrouve en façade ou en selfie? On peut pas l'anticiper, donc on teste tout. Et ensuite, on a un pourcentage d'importance entre le selfie et le capteur arrière. Et c'est là où on se retrouve avec des produits qui sont très bons en selfie. Beaucoup mieux, en fait, que beaucoup plus que certains gros flagships.
Ouais, qui vont faire remonter
la note moyenne.
Et c'est le cas de ce Motorola.
Et c'est le cas de celui-ci, qui a une très bonne note en mode selfie. Et ensuite, alors, sans rentrer trop dans le détail, on teste sur 3 focales. Grand angle, standard et téléobjectif. Donc, grosso modo, en dessous de 20 mm, ensuite 35 mm, et ensuite au-delà de 70 mm. Et le selfie, lui, généralement, ne fonctionne qu'en grand angle. Il n'est pas fait du tout pour faire du téléobjectif ou du standard, il est fait pour faire du grand angle.
C'est logique parce que le selfie, on voit être plusieurs sur la photo, etc., sans avoir un recul avec un bras de 10 mètres.
Les bras sont limités.
Ouais, c'est ça.
Et le Motorola Edge 30 Fusion, c'est justement une belle surprise. Mais je veux dire, c'est l'essence même de notre travail au laboratoire de la Fnac, c'est justement d'arriver à trouver les performances réelles des produits, bien que le marketing ou la communication du produit n'ait pas allé dans ce sens-là. Donc voilà, très très bon produit à 499€. Si on veut faire de la belle photo.
Voilà, donc très belle photo en selfie, mais c'est pas pour autant qu'il fait de mauvaises photos avec l'appareil à l'arrière.
Non, il est très bon aussi. C'est juste que le selfie, là où d'autres se ratatinent complètement, parce qu'il n'y a pas eu de priorisation sur la partie selfie, celui-là est très très bon en selfie. C'est là où ça compense vraiment la note globale photo.
Voilà, c'est le Motorola Edge 30 Fusion. On n'attendait pas Motorola dans ce segment-là, et ça fait plutôt plaisir. Si on veut maintenant le téléphone le plus rapide et le plus performant, avec un processeur qui booste de la mémoire, etc. Pour moins de 500€, on peut avoir des choses aussi.
Oui, on peut avoir des choses, et je reviens aussi sur comment bien choisir les produits. Si vous avez un panel de produits, regardez la mémoire vive. 6Go, c'est le grand minimum. 8Go, c'est bien. 8Go de RAM. Voilà, pour les gens qui veulent regarder un petit peu les spécifications.
C'est un peu comme sur les PC d'ailleurs, hein. C'est pareil.
Ouais. Oui, complètement. La RAM est extrêmement importante, parce que sans RAM, vous pouvez pas lancer 2 applications.
Le téléphone RAM, c'est lequel de dire?
Exactement.
Excusez-moi.
Tu dois pas être le premier à l'avoir fait.
Non. Et donc, confirme.
Le meilleur que nous ayons mesuré au labo, qui se vend actuellement sur la partie performance, c'est le Realme GT Neo 3T. Realme GT Neo 3T. Lui, pareil, il est à 499€. Il est vraiment
au taquet, en haut de la liste.
Mais il obtient un 9 sur 10 en performance. 9 sur 10 en performance, c'est-à-dire que le Sony Xperia dont on parlait tout à l'heure, qui lui n'a que 8 sur 10, ce Realme-là obtient 9 sur 10 en vitesse.
Donc il est aussi puissant, on va dire, qu'un smartphone haut de gamme,
oui.
Quasiment.
Ah oui, vraiment, sur cette partie performance. Après, là où il peut y avoir des écueils, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le top, peut-être que la batterie est peut-être sous-cadencée par rapport à l'énergie demandée par le processeur. Donc en tout cas, si on veut quelque chose de fluide, de rapide, c'est le produit qu'on a mesuré comme étant le meilleur et le plus rapide.
Parfait pour le jeu, par exemple.
Alors, à ce prix-là, oui. Parce que les jeux sont adaptés sur la partie smartphone, c'est pas comme pour les ordinateurs. Il y a beaucoup d'adaptations qui sont faites pour ne pas fonctionner forcément avec une carte graphique, un chipset GPU qui soit surcadencé. Mais la note performance que l'on fait, justement, évalue la partie web classique et la partie 3D. La partie gaming aussi rentre là-dedans. Tous les jeux qui sont sur smartphone, Android principalement, utilisent des librairies 3D graphiques qui sont utilisées et calculées grâce au chipset GPU des smartphones. Nos tests le prennent en compte ça.
Très bien. Alors que c'est vrai qu'on se pose des questions sur Realme en France. Hein. Il semblerait que la société est un petit peu en sommeil. Alors malgré tout, c'est pas pour autant que les téléphones vont s'arrêter d'être distribués.
Oui, on en a plein, oui.
Mais disons qu'il y a des questionnements concernant l'avenir de Realme en France. Est-ce que c'est un paramètre à prendre en compte, ça,
non.
ou pas ?
Enfin, en tant que client, on m'avait posé la question à l'époque de Huawei sur la partie. Ouais. Et les gens qui ont des Huawei, qui ont acheté des Huawei il y a 2 ans, fonctionnent toujours avec, en fait.
Oui, donc il y a pas de souci.
C'est si on rentre là-dedans, bon bah, il y a beaucoup de choses, on peut se dire, oh, je sais pas. Non, pour moi, il y a aucune question à se poser là-dessus.
Eh bien voilà. Pour moins de 500€, vous pouvez quand même vous offrir le smartphone de vos rêves et vous avez du choix. Malheureusement, Apple, n'est pas présent dans ce classement. Il faut rajouter un petit peu. On se retrouve avec un téléphone quand même, franchement, qui est limite. Hein. C'est ça qui est problématique.
Voilà.
La solution, c'est, on le disait, peut-être se tourner vers reconditionner, qui peut être parfois une très très bonne idée. Merci beaucoup Lionel.
Merci François.